Alors depuis la dernière fois, déjà la dernière fois, mais depuis la dernière fois, il s'est passé un certain nombre de choses qui font que de l'université représentée par la Sorbonne. La performance qu'on essayait de réaliser lors du colloque d'insistance, le fait que j'essaie de mettre sur le site qui est écrit là à la fois ce que je fais et que ça pose des questions intéressantes parce que dans la mesure où j'essaie de vous parler, je me rends compte qu'on ne peut pas l'écrire comme tel sur le site, et donc des conférences. Donc j'ai fait une conférence lors du colloque, et quand j'ai voulu un peu écrire quelque chose, quand je me suis laissé aller à écrire quelque chose, ce qui est apparu, c'est l'importance de l'universel, universitaire, universel. Et c'est évidemment une question qui est passée sous silence habituellement, que Lacan a essayé d'aborder par le biais du tout et du pas tout. Et je suis un peu allé trouver quelque chose à partir de ce kat holos, c'est le grec qui veut dire à partir du tout, kat holos, d'où kat holikos, de l'universel, entre parenthèses, le mot catholique est dans la langue française essentiellement à partir du XVIe siècle. Apparemment, on parle de christianisme, essentiellement, malgré la répartition à partir notamment de la scission avec l'Église orthodoxe au XIe siècle. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, ce catholos, ce tout, et en essayant d'écrire quelque chose sur ce que j'avais dit à la Sorbonne, en fait, je me suis trouvé écrire un article. Je pourrais presque dire que je me suis assez amusé à écrire cet article, dont le titre, finalement, s'appelle « Esquisse d'un tableau historique du christianisme ».« Esquisse d'un tableau historique ». Hommage à Condorcet, vous pouvez remarquer « Esquisse d'un tableau historique », c'est le titre, c'est le début du titre de ce qu'on peut considérer, ce que j'ai essayé de vous transmettre comme étant le testament de Condorcet, quand il est seul, caché, pas loin d'ici, juste à côté d'ailleurs, et qu'il écrit, lui, « Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain ». J'avais beaucoup parlé du tableau et de l'esquisse et j'ai essayé de... Bon, ceci va être mis sur le site, c'est pour ça que je l'ai mis au tableau et d'autre part ça va constituer un article qui va apparaître, je pense, dans le prochain numéro d'insistance parce que ça pose vraiment la question de la tresse, c'est un mot dont on va beaucoup parler aujourd'hui, de la tresse du tiers, de la tresse qui nous a psychanalyse politique. Pour autant que l'important, c'est surtout pas de les faire jouer deux par deux. Tout le problème, c'est de partir du 3. Et le 3, c'est pas le troisième. Le 3, c'est ce qui fait que l'un et l'autre, les deux, font 3. C'est comme ça que Lacan définit le réel dans le neuroméen. Tous les deux font 3. Il y a à nouveau le tout. Et il faut essayer un peu d'appréhender ce que c'est que le tout. Alors, bien sûr, ce qui est apparu dans ce que j'ai écrit comme une fiction, bien sûr, qui est la rencontre de Casanova en septembre 1787, qui vient donc rencontrer Mozart. Ça, on sait que ça a dû avoir lieu. On ne peut pas l'affirmer parce que l'histoire de ma vie s'arrête bien avant. Mais il y a des notes qui peuvent permettre de le déduire. Et de même que j'avais été personnellement très arrêté par le final du Don Giovanni, j'ai imaginé qu'effectivement Casanova était revenu, c'est certainement le cas, plusieurs fois à Prague, qu'il avait beaucoup parlé avec Mozart, qu'il avait entendu, qu'il avait assisté à la première, et que Histoire de ma vie, dont la rédaction commence 2 années plus tard, sans qu'on sache pourquoi, vraiment, pouvait être un après-coup de cette rencontre. Alors c'est vrai que ça change tout, parce que c'est plus du tout des mémoires, d'ailleurs ça ne s'appelle pas des mémoires, ça s'appelle l'histoire de ma vie, et ça pourrait expliquer la musique qu'il y a dans ces 3 volumes. Et c'est d'autant plus important que le manuscrit qu'écrit Giacomo Casanova, vous le savez, n'a été retrouvé qu'en 1960. Autrement dit, de 1798, date de sa mort, 5 juin 98 ou 4 juin, le manuscrit va être transmis, vendu, traduit en allemand, retraduit en français par un professeur de français, Jean Laforgue, avec toute la censure nécessaire. Et c'est ultérieurement que va apparaître ce manuscrit qui change non seulement la donne, mais qui a une mise particulière dans le rapport à la langue française. Bon, j'en ai parlé beaucoup. Et, alors là, je pourrais dire que pour moi, ça a été un coup de tonnerre. Les premières lignes de ce manuscrit, je l'avais déjà lu, mais je ne l'avais pas remarqué, c'est comme un tableau, ça. Les premières lignes de ce manuscrit, la quatrième ou les cinquièmes lignes, annonce, je dirais, la chose suivante. Je suis non seulement monothéiste, mais chrétien, qui n'a pas été gâté par la philosophie. C'est ça. C'est-à-dire que d'emblée, Casanova pose la question d'une articulation de 3, monothéisme, christianisme et la philosophie. C'est quelque chose qui, auparavant, il explique en quoi la philosophie stoïcienne qui pensait l'avoir guidé jusque-là, notamment en suivant cette maxime que lui a dit un jour un sénateur vénitien, Malpiero, sequere Deum, suivre le Dieu. C'est sans doute pour ça qu'on peut parler d'un après-coup. Là, quand il commence Histoire de ma vie, il le commence au moment où la révolution éclate en France, 1789, juillet, été 1789. C'est comme étrange qu'il y ait une correspondance entre la révolution à Paris et puis cet été bohémien, ça se passe à Duchkov, pas loin de Prague, cet été bohémien où Casanova prend la plume. Et annonce, alors on ne sait pas évidemment s'il écrit à ce moment-là, sans doute il l'écrit un peu plus tard, mais en fait ça commence comme ça. Il explique que la philosophie stoïcienne, c'est quelque chose qui relève d'une certaine imaginarisation et que ce n'est pas ça qui est important. Je suis monothéiste, je suis non seulement monothéiste mais chrétien, que la philosophie n'a pas gâché, quelque chose de tout à fait important. Alors voilà, donc c'est un peu comme ça, je crois que c'est ça qui m'est... qui n'a pas été gâché par la philosophie. J'arrive pas à retrouver là, puis j'ai pas de notes. Gâté. Qu'est-ce que j'ai dit, gâté ou gâché?
Pas été gâté par la philosophie.
Voilà. Bon. J'ai peut-être bien fait, je sais pas si, je sais plus si c'est gâté ou gâché. Voilà. Ah. Mais c'est tout à fait important, justement.
Non, ce que j'ai pas compris, c'est s'il était gâché ou pas gâché.
Pas gâché. Non, pas gâché. Hein. Hein. Donc voilà, voilà les éléments de départ. Alors c'est vrai qu'à partir de là, quelque chose d'autre, quelque chose nous permet d'interroger, évidemment, l'articulation entre le monothéisme et le christianisme. Alors, ce qui permet, à mon avis, alors évidemment, moi je suis, je viens du côté du catholicisme, hein, ce qui paraît évident, c'est que ce qui permet d'interroger, c'est la question de l'universel, et c'est la question du tout et du un. C'est-à-dire que là, on peut pas partir dans des explications. C'est une logique. C'est la logique des canteurs dont parle Lacan. Et on ne peut pas se réfugier dans des explications, quelles qu'elles soient. C'est vraiment un discours particulier qui se met en place. Donc c'est un peu ça qui m'est apparu en rédigeant ça. Tout à l'heure, dans les discussions, Henri Fontana va, on en a parlé hier soir, va donner aussi son avis. Parce que je suis tombé, évidemment, sur qui ? Sur Paul de Tarse. Incontournable. Pourquoi ? Parce que c'est le premier qui a écrit. Et c'est donc le premier, étant donné que c'est le premier qui a écrit, c'est celui à qui on se réfère comme fondateur du christianisme. Les évangiles seront écrits ultérieurement. Et il y a une semaine, on parlait avec France de cet évangile apocryphe de Marie, où apparaissait ce que France a appelé la dimension du féminin de Marie-Madeleine. Qu'est Marie-Madeleine à un moment dans la rencontre avec Jésus-Christ ? Alors, il y a une question, à mon avis, en plus c'est tout à fait d'actualité parce que c'est dans les discours politiques actuels. J'ai entendu Ségolène Royal 2 jours. Il n'y a plus ceci, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Nous sommes tous un dans la République. Or, il y a effectivement une épître de saint Paul. Il y a une épître de saint Paul qu'il écrit dans un moment d'une certaine colère. C'est l'épître aux Galates. Il l'a écrit en 57. Un an avant l'épître aux Romains. Habituellement, on se réfère à l'épître aux Romains. Alain l'a très bien fait dans son travail, jusque-là. Et il y a une épître tout à fait importante, qui est donc l'épître aux Galates, où il explique le contexte. Et cette épître, c'est vraiment la position, je crois que c'est la position doctrinale de saint Paul. C'est-à-dire que dans l'épître aux Romains, il pense, il présente, il articule. Pourquoi il fait ça ? Parce que il envisage d'aller à Rome où il y a déjà une communauté. Et vous savez que ce qui était caractéristique des communautés, c'était le fait qu'il y avait d'une part des judaïsants circoncis et d'autre part des non-judaïsants, c'est-à-dire des gentils non circoncis, et qu'il y avait un enjeu considérable autour de ça, c'est-à-dire que les judaïsants disaient, jusqu'à ce qu'on se mette à peu près d'accord quelques années auparavant, c'est le Conseil de Jérusalem, on pourrait dire le premier concile, qu'il n'était pas obligatoire d'être circoncis pour être sauvé. Or, Paul, depuis 17 ans, en 57, depuis 17 ans, depuis sa conversion, différents pays, et lui a perçu, lui qui n'est pas un apôtre au sens habituel, il n'a pas connu Jésus-Christ, il était converti, a perçu que, pour lui, la foi en Jésus-Christ était suffisante. Donc il y a un débat. Bon, je ne vais pas revenir tellement sur ce que je veux prendre, ce qui me semble important, qui va un peu dans le sens, et vous allez voir comment ça intéresse chaque être parlant, parce que ça pose la question de l'expérience du discours. Il y a un moment, après avoir expliqué ce qui s'est passé, après avoir expliqué que, notamment Jacques, c'est le responsable de la communauté de Jérusalem, a envoyé là où il a évangélisé, c'est-à-dire vers les Galates, des espions pour savoir un peu comment ça marchait. Il explique tout ça. Et à un moment, dans l'évolution de son discours, il dit quelque chose que j'avais déjà lu, mais que j'avais jamais remarqué comme ça, c'est « Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a... » Ça, c'est la traduction française qu'on a. Hein, Henri va nous donner la traduction, va nous donner le texte grec d'origine et la traduction de la Vulgate, pour voir que c'est pas tout à fait ça. Mais c'est comme ça que ça nous a été transmis. Après tout, nous, on a été façonnés là-dedans. Donc il y a à la fois cette dimension-là qui nous intéresse, parce qu'on a été façonnés là-dedans, et d'autre part, comment c'était écrit au départ, en fait. Donc, il n'y a... En fait, il y a trois négations qui se terminent par une affirmation. C'est pas mal, trois qui se fondent en un. Je veux dire, c'est déjà pas mal, hein, à ce moment-là. Hein? Alors, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni esclave ni libre, car tous nous sommes un en Jésus-Christ. Alors évidemment, la compréhension, le discours habituel, je dirais le discours de pensée, ce qu'on pourrait appeler un discours propositionnel, celui que, je dirais, j'ai appris, celui qui est compréhensible, c'est qu'à partir du moment où Jésus-Christ vient, qui rachète le péché originel, à partir de ce moment-là, ça s'adresse à tous, et il n'y a donc plus de différence sur ce plan-là. On peut tous être rachetés, c'est exactement ce qui soutient, puisqu'il y avait cette division, cette opposition entre juifs et grecs, justement. C'est là-dedans qui... C'est ce qui a été beaucoup discuté. Or, c'est toute la question, qu'est-ce que l'Église, dans les siècles qui vont suivre, notamment dans les dogmes, et alors Henri pour nous en dire un mot, puisqu'il travaille cette question, qu'est-ce que l'Église, dans les années qui vont suivre, va retenir, notamment dans les conciles qui ont lieu au IVe siècle, sur le plan de ce qui est un. Car tous nous sommes un. Par rapport à ça, parce qu'évidemment, tous nous sommes un, si c'est entendu de façon univoque, ça conduit à la conversion, ça conduit à la façon dont va être définie l'Église très tôt, dans le symbole de Nicée, Église sainte, une, nous croyons, c'est le credo, nous croyons en l'Église unum sanctam catholicam et apostolicam, ecclesiam. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. C'est-à-dire que, prenant appui, sans doute, sur Paul, apparaît dans l'Église catholique la dimension du un qui est sanctifié, l'importance apostolique, c'est-à-dire le fait d'aller convertir, c'est la mission des apôtres, et une question se pose, c'est celle de savoir si c'est bien ça en fait que Paul, qu'il l'ait pensé ou pas, n'est pas notre question, quand on lit ce passage, ces trois impossibilités, qui sont en fait pas du tout impossibles, il est évident qu'il y aura toujours des juifs, des grecs, des hommes, des femmes, donc c'est pas une impossibilité au sens de l'imaginaire, évidemment, ça peut pas être ça, donc c'est autre chose. Ces trois impossibilités, il n'y a plus, qui sont formulées sous forme négative, et qui se résolvent en une affirmation, qu'est-ce qui peut se dire là comme suite logique ? Ça, c'est la question. Je ne vais pas en dire plus, parce que je crois que là, il y a quelque chose, il faut laisser les choses travailler. Et donc, c'est autour de ça, donc la façon dont Paul pose les choses, à ce moment-là, allez, cette épître, c'est en quelque sorte un cri du cœur, qui est lié au fait qu'il est fâché, et il lâche quelque chose, et c'est quelque chose qui fait tâche dans l'ensemble de l'épître. L'épître, elle n'est pas très longue. Hein, mais c'est quelque chose vraiment qui fait tâche par rapport à tout le reste. Puisque auparavant, il se présente, on va dire. Avant de dire ça, il se présente, il dit ce qu'il a fait, il dit au nom de quoi il parle, il dit ce qu'il a déjà fait, qu'il est allé, etc. Il redéfinit les choses, puisque c'est une lettre qui est écrite. Mais laisse-moi finir, on verra après. Ça, c'est chacun qui fait les liens. J'en arrive à cette dimension qui est au début, je te réponds, au début de Casanova, je suis non seulement monothéiste, mais chrétien. Voilà la liaison. Pourquoi il met non seulement mais ? C'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé. Il connaît très bien, il connaît le poète Horace, il connaît énormément de choses, Casanova, énormément de choses. Bon, l'article que j'ai écrit, là, vous pourrez le lire, parce que ça donne un peu une idée de, je ne vais pas reprendre ce qui s'est passé quand il avait 8 ans, etc., qu'il a ouvert à quelque chose, un certain savoir. Donc c'est ça. La question qui m'est revenue, c'est qu'est-ce qui fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le Casanova, évidemment, qui a été divulgué. Celui-là, il ne nous intéresse pas beaucoup. Ça intéresse si peu que l'article, je l'ai envoyé à Philippe Soler qui m'a appelé à midi. Il m'a dit, il faut qu'on se rencontre pour qu'on parle. Parce que ça l'intéresse beaucoup, ce que j'ai écrit. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose dans cette affirmation-là, d'emblée, qui est très importante et qui habituellement n'est pas du tout retenue. Alors c'est ça un peu. Alors ça, mise en place à la Sorbonne, dans une université qui est un ancien collège catholique, on arrive là-dedans, on se met à parler, c'est vrai que ça produit des effets, si tu veux. Voilà, c'est un peu ça le truc. Et je crois que c'est vraiment un rêve-olution qui dépasse la révolution. Il y a quelque chose, c'est ce que j'essaie un peu de vous transmettre. Bon, et donc ça nous ramène. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette dimension du tout, car tous vous êtes un, c'est l'articulation du tout et du un. Hein, Paul de Tarse pose donc d'emblée la question de l'articulation du tout et du un, et ça nous amène évidemment à la façon dont chaque être parlant que nous sommes, dès qu'il parle et dès qu'il entend quelqu'un qui parle, va recevoir ou pas, habituellement pas, ce qui peut soudainement être. Alors, je ne sais pas quoi. Hein, une fois, Henri, si cantetré, 53, un chant dans la voix, et c'est vraiment notre travail au plus près, pas du tout dans le sens, entendre quelque chose dans la voix de celui qui parle, ou pas. Hein, au-delà évidemment du sens, le sens ça sert un peu de support, et ça pose effectivement la question que Lacan arrive après, déjà dans le séminaire encore, mais dans les non-dupes, hein, si vous reprenez les séminaires de décembre, janvier, février, tout ça, il revient là-dessus pour expliciter un peu ce qu'il a défini comme étant le patou chez la femme, et il y a une phrase, alors là c'est un truc extraordinaire, bon je l'ai entendu parce que j'ai les CD, donc j'aime bien entendre Lacan, c'est un peu fatigant. À un moment, dans le séminaire du 15 janvier 1974, il dit ça, c'est la première fois que j'entends ça comme ça, je vais vous le dire, il explique toutes sortes de choses, il explique que le tout, la question du tout, c'est ce que fabrique l'homme quand il parle. C'est-à-dire que, mais attention, l'homme, ce n'est pas différencié de la femme. Hein. C'est la part masculine de l'être parlant. Hein. C'est-à-dire que la part masculine de l'être parlant, quand elle parle, habituellement, il dit c'est un rond de ficelle. C'est-à-dire que c'est à tourner en rond. Ça tourne. Ben, c'est le ça tourne. Et il parle d'Aristote qui dit qu'il a un peu abordé cette question-là, mais pas beaucoup. Il aurait, dit-il, pu dire, par exemple, Aristote, tout homme n'est pas femme. C'est pas l'homme n'est pas la femme. Tout homme n'est pas femme. Et ce roman serait peut-être déjà posé des questions, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une exception, il y a quelque chose là-dedans qui interroge. Et après avoir défini la dimension, on est dans la dimension de l'universel. On est dans l'essai de différencier l'universel du savoir masculin et l'universel du féminin, qui précède juste cette, vous savez, cette citation dans la télévision, « Toutes les femmes sont folles », dit, je vais parler de ce qu'est l'universel féminin, voilà comme on en parle, toutes les femmes sont folles. Et immédiatement, il ajoute, c'est pourquoi elles ne sont pas toutes. C'est-à-dire pas folles du tout, arrangeantes. Voilà la réponse de Lacan sur le plan du discours, de l'expérience du discours. Alors j'essaie un peu d'avancer avec vous par rapport à ça, parce que on est tout à fait dans ce discours qui n'est plus, non seulement qui n'est plus du côté du sens, encore ça, bon, non seulement qui n'est pas de ce qu'on pourrait appeler du côté du signifiant, parce que finalement on ne sait pas bien ce que c'est que le signifiant, on attend tellement les effets de signifier du signifiant que, bon, mais du fait que dès qu'un être parlant parle, il est du côté du tout homme. Et le tout homme n'est pas femme. N'est pas une femme. On n'est pas encore dans une femme, dans le une de femme, dans le pas tout. Ce qu'il dit, c'est que ce que Lacan avance, c'est que, tout d'un coup, évidemment, il dit, mais une femme, ça peut se produire quand il y a une tresse. Tresse. Un nœud. Et donc tout est là, c'est-à-dire que la dimension du un, de une femme, c'est la question du un, en référence au tout, bien pour ça qu'il ne peut pas y avoir de rapport sexuel, au sens de la sexuation, c'est le fait qu'une femme peut se produire. Quand il y a une tresse, alors on voit tout de suite l'image, évidemment les cheveux, mais c'est une image, c'est l'imaginaire, mais ça signifie, à mon avis, que dès lors que le discours est tressé d'une certaine façon, au un par un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'universel au sens du catholique, justement, c'est pas de cet universel-là dont on parle, c'est d'un un qui fait que ça fait trois. C'est le un qui fait trois, c'est pas le trois qui fait un. Sauf si le un en question est triple. Alors, est triple. Triple. C'est-à-dire que nous sommes en quelque sorte les patients, je cite, sont de la triplicité. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est attendu dans le discours de ce qu'on pourrait dire dans l'expérience du transfert du psychanalyste? C'est ça. C'est qu'il y ait. Alors, ça va très loin. Je trouve que ça va très loin. Ça voudrait dire que la plupart des discours, alors qu'il va appeler discours du maître, discours. Alors c'est ce qu'on disait hier soir. Quelques-uns qui commencent à réfléchir autour de. On ne sait pas trop quoi. On va appeler ce qu'on va appeler le groupe. Vocis imago. Virgile. Eh bien, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va faire que dans ce que j'entends, le discours. L'expérience du discours est sur le mode de ces tresses à un moment. Moi, il me semble que j'ai trouvé un peu ça. C'est un peu Casanova qui m'a amené dans cette direction-là, paradoxalement. Je ne pourrais pas dire exactement comment. Bon, c'est un peu ça. Alors, vous voyez que ce qu'on a dit au début de l'année, quand Freud rencontre Lucière, qui lui dit « Mais puisque vous savez ça, pourquoi vous ne me l'avez pas dit ?» On voit bien que là, on est complètement de ça. On est déjà beaucoup plus proche de ça dans ce rêve de l'homora, dans l'interprétation de Lacan, qui est des années 50 et quelques, quand il dit, c'est pas du tout, évidemment, bien sûr qu'on peut dire ça, c'est qu'il rêve, bien sûr, que la fille de Freud, on va dire la fille du père, qui est là, hein, s'il l'épouse, eh ben, c'est pas pour ses beaux yeux, c'est pour son argent, hein, histoire des crottes. Hein. Et Lacan, vous savez, il donne une interprétation extraordinaire, il dit, c'est le regard, c'est la mort qui le regarde de ses yeux de bitume. Autrement dit, la grande question qui est celle, alors, du savoir, et c'est ça, le savoir, aussi dans le même temps, je vous fais un peu part de, dans le même temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce titre ? Le savoir, c'est pas le savoir de quelque chose. C'est ce qu'on appelle le savoir absolu. Il n'y a pas de complément, il n'y a pas de sujet, et c'est le substantif d'un infinitif. Qu'est-ce que le voir ? Qu'est-ce que l'entendre ? Je trouve qu'on glisse à une telle vitesse sur le savoir. Habituellement, quand on dit le savoir, on n'imagine pas du tout qu'on touche à quelque chose qui est infinitif. Pour autant qu'il n'y a pas de sujet, pas d'objet, que ça touche au savoir absolu, et que le savoir absolu, absolutus, ab, mouvement, qui va vers l'extérieur, solvere, dissoudre. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement bien de dissoudre quelque chose. Le problème, c'est que quand le savoir absolu apparaît, c'est ce que Lacan a répondu à Alain le 15 février 1977, il ne s'incarne pas. Bozev, dont parlait Alain, ne pouvait pas être représentant du savoir absolu. Le savoir absolu ne s'incarne pas, il reste, il fonctionne tout seul. Alors ma grande question, c'est ça, est-ce que malgré tout ce qu'on peut dire de l'énoncé de Paul, il n'y a pas quelque chose dans la structure là, j'en sais rien, je ne suis pas encore capable de répondre, qui est de cet ordre-là, du savoir absolu. Ce qui est sûr, c'est que l'Église va l'interpréter d'une certaine façon. J'en ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle l'interprète sur le mode, je dirais, qui lui convient, puisqu'elle s'établit, elle fige, elle fait de la politique, elle s'organise, Constantin a tout mis en route les choses, etc. L'Église prend le pouvoir, Théodose, etc. Et à la fin du IVe siècle, ceux qui ne sont pas chrétiens sont bannis. C'est-à-dire qu'il y a un renversement de situation extraordinaire. Hein, au début du siècle, ce n'est pas du tout ça. À la fin, ça a changé complètement. Donc on est passé d'une visée, on va dire, de croyance à une visée politique tout à fait importante. Voilà un petit peu les éléments que je voulais un petit peu lâcher ce soir par rapport à ça.